Bonjour, là-bas, si j'y suis, ben, je suis là-bas, puis j'y suis pas trop mal. C'est Jeanne de Montauban. Alors moi, je suis tout cœur avec les grévistes, n'importe qui, n'importe quel gréviste. C'est notre dernier droit, notre dernière bouée de sauvetage. Si on perd le droit de grève, on est foutu. Alors Jeanne, elle a élevé 5 enfants, elle a 7 petits-enfants, c'est moi. Mais c'est tellement incroyable que je prenne la distance. J'ai toujours travaillé à mi-temps, et voilà ma retraite. 524,84 € par mois. Comment on vit avec ça? Une mère de famille, j'ai élevé 5 enfants, tous bien élevés. Super petit français, la France que j'aime. Mais là, vraiment, elle m'a trahi. 524,84 €. Daniel, fais une émission sur les petites retraites, je t'en supplie. Parce que ça, on ne s'en rend pas compte. On va au bouillon, hein. Je crois qu'on va me retrouver dans la rue dans quelques temps. Peut-être pas parce que je suis un petit peu débrouillarde, mais 524,84 €, 5 enfants et toujours travailler à mi-temps. Voilà. Les patrons cotisaient pas, j'ai été bébête aussi, j'ai pas fait très attention. Et voilà, 524,84 €, j'ai les boules.
Salut à tous les nantis, bon, et arrêtons les frais là, je comprends pas pourquoi tout le monde s'affole, mais... Vous n'écoutez pas la radio, vous ne regardez pas la télévision. Il n'y a rien de grave, hein. C'est pas le gouvernement qui nous écrabouille et qui écrabouille, qui m'emmiette notre morale et qui nous rend, ma foi, de plus en plus fébrile. Mais non. D'après les nombreux messages que j'entends, franchement, on peut être rassuré. Nous sommes malades. On fait une dépression. Allez, ciao.
Ce soir, à 20h, venez assister au match du siècle, au Café Repère de Brignoles, bar de l'Oasis. À la droite, régime spéciaux des parlementaires, 1 500 € de retraite pour 5 ans de cotisation. À la gauche, régime spéciaux des cheminots, 37 annuités sans être sûr d'en profiter. Le vainqueur remportera le grand prix de la journée sans achat, offert par les adeptes de la décroissance. Nous vous attendons nombreux ce soir au bar de l'Oasis à Brignoles.
Salut Daniel et toute la compagnie, c'est le corps de Maxime dans l'île de France. Je donnerai mon numéro de téléphone à la fin. Voilà, j'espère qu'on va pas nous bassiner avec le « il faut terminer, savoir terminer une grève » de Maurice Thorez en oubliant la fin de la phrase « lorsque satisfaction a été donnée aux revendications ». Alors, Guénaud, Sarko ont des trous de mémoire. Hein. Ciao.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Je téléphone désespéré parce que j'écoute les infos ce matin. Nous avons bien eu une grève hier. Et j'entends que sur les infos, vers 8h, on fait passer un monsieur qui, soi-disant, appelle le centre de l'UMP. On nous retransmet un message comme quoi ce monsieur est scandalisé. Un illustre inconnu prend la parole pour parler de la grève, pour nous dire son mécontentement. Et je n'entends rien d'autre que ce message-là. Je suis profondément choquée que l'on puisse laisser passer sur une radio pour une info nationale un illustre inconnu qui critique les grévistes, qui critique le fait qu'on bloque, etc., etc., et que cette personne dont on ne connaît ni le nom, où a-t-on été chercher cette information? Comment peut-on remettre sur une radio nationale un monsieur qui appelle le centre de l'UMP et que l'on fasse parler ce personnage, un illustre inconnu? Je suis scandalisée par les méthodes utilisées aujourd'hui pour soi-disant transférer l'information publique sur des chaînes publiques. Daniel Mermet, je suis profondément choquée et je commence à en avoir assez. Une Française qui en a ras-le-bol, ras-le-bol de cette société, ras-le-bol de cette désinformation, vraiment, profondément assez. Je vous salue bien, je m'appelle Christine, je suis enseignante et croyez bien que ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, c'est impossible. Je vous souhaite une jolie journée, Daniel Mermet. Heureusement de nous laisser cet espace de parole. Merci beaucoup. Au revoir. Une Française qui en a assez.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je viens de voir à France 2, au journal télévisé, Daniel Mitterrand. Voilà un exemple d'une femme qui est de gauche et qui ne s'empête pas à faire un discours long sur la philosophie ou sur la métaphysique. En deux mots, par exemple, la journaliste lui dit « voilà les rêves que vous souhaitez, etc. » Et Daniel Mitterrand lui dit « non, c'est pas un rêve de vouloir changer la société, c'est un objectif. » Voilà comment elle se place de façon simple dans les vrais axes des batailles pour défendre les droits des plus pauvres. Alors que Madame Royal, elle s'empêtre dans des adjectifs qualificatifs concernant M. Sarkozy en disant oui, il agit avec arrogance. Qu'est-ce qu'elle a fait l'arrogance avec ça? Alors que simplement M. Sarkozy, il applique une politique de droite parce qu'il est de droite et qu'il est cohérent. Qu'est-ce qu'elle va chercher des adjectifs qualificatifs, ces pauvres Madame Royal? Une autre chose, quand la journaliste lui dit, est-ce votre vie privée? Madame Daniel Mitterrand dit, non, je ne parlais pas de ma vie privée. Et alors, qu'est-ce qu'on a en mémoire? Les portraits de Madame Royal à la une d'une grande hebdomadaire, photographiés devant un lit de fée avec un oreiller. Quelle indignité de cette Madame Royal! Quelle indignité de la gauche! Quelle façon épouvantable de parler de la dignité d'une femme. Alors que Daniel Mitterrand, avec deux mots simples, élégants, en parlant bien français, il dit tout ce qui vaut la lutte pour défendre les plus démunis, tout ce qui vaut de lutter pour changer notre société. Madame Royal, vous êtes la honte de mon pays qui m'a protégé. Vous êtes la honte. Je vous garde tout mon mépris. Je fais ceci parce que j'ai perdu mon pays entre les mains des néolibéraux. Et lorsque je vois tous ces gens de gauche faire des petites accointances, comme si faire des petites concessions, c'était des petites concessions, alors que c'est une machine dans laquelle on ne peut plus jamais sortir, et qu'on va perdre notre pays et notre liberté là-dedans, je me dois, comme citoyen français, de lutter. Ça, c'est ma lutte. Si je peux vous aider avec ça, je suis disposé. Vous savez où me trouver. Je vous remercie.
Eh bien, nous aussi, on vous remercie, amis modestes et géniales, otages modestes et géniaux, que vous êtes tous nantis auditeurs de là-bas, si j'y suis. Otages et prises en otage à propos d'otages, et ça nous ramène à l'Amérique latine. Je crois comprendre que cet auditeur est originaire d'Amérique latine, Argentine, Chili, j'ai pas très clairement compris. En tout cas, pour ce qui nous concerne, à partir du 3 décembre prochain, nous partirons pour la Colombie. Enfin, une série de reportages sur ce pays. Et aujourd'hui, vous avez peut-être noté l'information selon laquelle le président de la Colombie, Alvaro Uribe, a brutalement décidé d'interrompre la mission de médiateur de Hugo Chavez dans l'affaire des otages, otages parmi lesquels une grille de Bettencourt se trouve, et c'est la consternation pour les familles des otages, pour la famille de Ingrid Betancourt, mais aussi pour toutes les familles d'otages et les mouvements qui, en Colombie et à travers le monde, soutiennent les otages des FARC. À partir du 3 décembre, donc, voyage à travers la Colombie, un voyage en Colombie, où nous découvrirons ce qui n'est pas clair dans la représentation que nous avons de la Colombie. Qu'est-ce qu'on a comme image? On a l'image d'Ingrid Betancourt, prisonnière de monstrueux terroristes dans la jungle quelque part. Or, dans ce pays, s'il est vrai qu'il existe une guérilla ancienne et très organisée, il existe aussi des mouvements paramilitaires qui sont les auteurs de nombreux, très nombreux crimes, détournements de toutes sortes, et qui représentent, qui constituent 70% des crimes et des meurtres dans ce pays, alors que 30% seulement sont imputables, c'est déjà énorme, évidemment, à la guérilla des FARC. Or, ces paramilitaires, eh bien, on n'en parle jamais, on en parle rarement. Aujourd'hui, à travers la Colombie, c'est le scandale de la parapolitique qui est à la une de tous les journaux, et cela non plus, on n'en parle guère, on préfère s'acharner à deviser sur le Venezuela et sur Hugo Chavez. C'est le cas aujourd'hui dans le journal Le Monde de l'ineffable Mario Vargas Llosa. Voilà, tout ça, on en parlera à partir du 3. Aujourd'hui, on va rester cette heure ensemble autour d'un livre particulièrement important, je trouve, nous trouvons à la base, si j'y suis. C'est un livre d'Ibrahim Ward qui s'intitule « Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme ». Un livre qui est sorti il y a quelques semaines, aux éditions Agone, édité également par Le Monde Diplomatique. Ibrahim Ward est un chercheur spécialiste de l'économie et de la finance internationale. Il est professeur à la Fletcher School of Law and Diplomacy à Harvard. Et il s'attarde sur un... C'est un bouquin très important parce que Ibrahim Ward s'attarde au lendemain du 11 septembre. Au lendemain du 11 septembre, on part tous en guerre contre le terrorisme et contre l'axe du mal. Et bien sûr que cette guerre contre le terrorisme ne va pas manquer de servir d'alibi et de prétexte pour étendre et renforcer les intérêts et la mainmise des États-Unis sur la planète. Sauf que Ibrahim Ward observe cela à travers la finance. Alors la finance, wow, c'est aride, c'est compliqué, c'est immatériel, c'est difficile à saisir. Et bien justement, c'est évidemment par là, parce que c'est difficile à saisir, parce que c'est difficile à montrer que c'est par là que ça passe, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on verra comment, pour revenir à la Colombie, comment au nom de la lutte contre la guérilla, comment ce pays dérive totalement à travers la parapolitique, à travers les paramilitaires liés au pouvoir militaire, liés à l'oligarchie politique et l'oligarchie financière et des affaires dans ce pays, au nom de la lutte, là aussi, contre le mal, c'est-à-dire contre la guérilla. Ce qu'il y a derrière cette lutte contre le terrorisme, sous l'angle de la guerre financière contre le terrorisme. Voilà, Ibrahim Ward, donc, jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour là-bas, si j'y suis, c'est Michel du Gers. Voilà, je voudrais dénoncer une autre catégorie de nantis qui sont la mienne, des commerciaux, et il faudrait faire des lois parce que nous sommes trop nantis. Je vous explique pourquoi. J'ai une voiture de société que je peux utiliser 7 jours sur 7, l'essence payée entièrement, je suis un nanti. J'ai un repas calendaire qui m'est payé, qui est d'environ 15 €, je suis un nanti, naturellement, il faut arrêter cela. J'ai 21 jours de RTT. Je suis un nanti parce que c'est vrai que je me lève très très tôt, je rentre souvent, je pars à 6h du matin et je rentre souvent à 8h le soir. Je travaille pas assez, vous comprenez très bien, donc je suis un nanti. Donc voilà, moi je voudrais m'offusquer contre toute cette profession de nanti qui représente les commerciaux, puisque j'ai un salaire en plus de 1 500 € par mois qui est trop élevé pour un commercial, vous imaginez, je suis un nanti. Je touche des primes, imaginez-vous, je suis un nanti. Donc je voudrais qu'on s'attaque à ce système. Surtout qu'en plus, moi, dès que je pars de chez moi, je suis comptabilisé comme travailleur. Je travaille, je suis un nanti. Je suis un nanti. Donc il faut faire une loi contre les commerciaux qui sont des nantis de la société et qui profitent de cette société pour s'en mettre plein les fouilles. Donc faisons une loi empêchant tous ces nantis de pouvoir profiter de tous ces avantages qu'ils ont. Vive le capitaliste prolétaire. Merci.
Oui, bonjour. Un petit problème pour le petit Nicolas qui rêvait d'être un bon président. Je gagne 1 500 € par mois. Je fais tous les jours 2 x 45 km, soit 90 km de route. J'ai une vieille voiture qui consomme beaucoup et je fais en moyenne 1,5 plein par semaine, à savoir 75 € par semaine. J'ai un loyer de 500 € par mois. C'est un T1 et c'est beaucoup moins cher que ma ville où je travaille. Je fais entre 100 et 150 € de courses par semaine, sans excès. Ma femme cherche désespérément du travail dans l'aide à la petite enfance. On a 2 enfants de 3 et 5 ans. On touche environ 200 € d'allocation par mois. Que reste-t-il pour mes enfants? Voilà la réponse. 450 € de dette. Alors je travaille pour gagner plus. Je travaille plus pour gagner plus. J'arrive à 100 € par mois, maxi, de plus. Ah, c'est bon. J'ai plus que 350 € de dette. Au fait, je n'ai que l'amour de mes enfants et de ma femme, mais ils ne sont pas à vendre. Mon patron, lui, il a 13 appartements, 2 maisons et 4 voitures. Que faut-il faire? Moi, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose.
Ce soir, à Hakuna Matata, sur la place de la Diane à Pertuis, à 18h30, aura lieu le repère là-bas si j'y suis, et le thème sera « Je grenelle, tu grenelles, il grenelle, nous grenellons, vous grenellez, il grenelle ». Vous avez compris, j'espère. Bon, et bien, à ce soir. Merci, Daniel. Au revoir.
Ça n'a donc rien retenu de ce qu'il raconte, l'autre, dans ses serments à l'église, le chef machin chose. On vit dans une société où il y a des lois. Pourquoi tu crois que je t'ai emmené voir tous les polices académies pour t'amuser? Mais j'ai pas entendu un seul rire dans la salle. Et toi? Sauf quand le mec faisait tous ces bruits. Où j'en étais? Ah ouais, touche pas ma pierre.
Non, je suis vraiment désolée. Pour savoir que l'Odem est un des affronts de l'Afghanistan, c'est او به خاطر جنایت علیه ایالات متحده آمریکا، افغانستان و کشورهای دیگر تحت تعقیب قرار دارد. اسامه بن لادن تروریست.
Salut, c'est là-bas et j'y suis, Daniel Mermet, avec Ibrahim Ward, propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme.
Flight number 2, arriving from New York.
September 11th, 2001. It is not a declared war, but a war just the same. The word President Bush is now using to describe these suicide plane strikes on the World Trade Towers and the Pentagon. And the stakes could not be higher. A White House spokesman says intended targets included the White House and Air Force One.
Le 11 septembre 2001 a entraîné et a déclenché la guerre contre le terrorisme. Et cette guerre contre le terrorisme, ça a d'abord été évidemment l'invasion de l'Afghanistan en octobre 2001, puis en mars 2003, l'invasion de l'Irak. Et dans les deux cas, eh bien aujourd'hui, c'est l'enlisement, c'est le bourbier, pour ne pas dire le merdier. Ce qui n'empêche pas l'actuel gouvernement américain de préparer sérieusement des opérations contre l'Iran. Cette politique, cette guerre contre le terrorisme ne fait pas l'unanimité, on le sait, la contestation se développe au sein même de l'armée américaine, mais une autre guerre a lieu depuis le 11 septembre 2001, une guerre beaucoup plus opaque, beaucoup plus virtuelle, beaucoup plus technocratique, financière contre le terrorisme. Après chaque attentat, on nous dit qu'il faut s'attaquer à l'argent caché du terrorisme, geler les avoirs, démonter des réseaux de financement, car l'argent, c'est l'oxygène du terrorisme, c'est le nerf de la guerre contre la civilisation. Mais que savons-nous de cette guerre financière? Qui la dirige et contre qui est-elle menée? Et quel est le bilan? Quels sont les résultats de cette guerre financière? Alors, voilà pourquoi on a avec nous aujourd'hui Ibrahim Ward. Ibrahim Ward enseigne aux États-Unis à la Fletcher School of Law and Diplomacy dans le Massachusetts. Il est spécialiste de l'économie et de la finance internationale et les lecteurs assidus du monde diplomatique connaissent cette signature et les papiers, les articles d'Ibrahim Ward. Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quand même un bouquin assez formidable parce que effectivement, depuis des années, on nous parle de cette guerre financière, de cette guerre contre l'argent du terrorisme, contre les dollars de la terreur, et vous nous apprenez énormément de choses. Mais ce qu'il faut dire au départ, c'est que c'est un sujet difficile, c'est un sujet opaque, c'est un sujet rébarbatif, hein, les chiffres, la finance, ça vaut pas quand même un beau reportage, une bonne histoire qui va susciter l'indignation. Alors, on va commencer par le titre du bouquin, en vrai journaliste que je suis, Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme, le titre.
Eh bien, le titre, enfin, parler de propagande, c'est vraiment le cas dans la mesure où la propagande, ça implique des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais des choses qu'on croit ou qui sont destinées à être crues. Et le grand public aux États-Unis et partout dans le monde croit à cette propagande. Donc ça a été une propagande très efficace. Et cette propagande, c'est le fait qu'il faut beaucoup d'argent pour le terrorisme. Et c'est aussi le fait que la guerre financière est un succès. Quant au mot impérial, je crois que tout le monde s'accorde à penser que depuis le 11 septembre, en tout cas, il n'est pas faux de parler d'un empire américain. Et certainement dans le domaine de la finance, c'est le cas dans la mesure où le contrôle des capitaux est de plus en plus centralisé et que les États-Unis sont capables de geler des actifs là où ils veulent ou de demander à des gouvernements étrangers d'en faire de même. Donc, puis l'aspect guerre financière n'est pas très... On ne parle pas beaucoup de finance en matière de guerre, donc je parle dans mon livre d'une approche martiale de la finance, dans la mesure où il y a des outils militaires, ou en tout cas une approche militaire qui est utilisée, en tout cas sur le plan du discours, qui voit dans les financiers, ou tout l'aspect financier des choses, un élément essentiel du terrorisme. Donc on part du principe que sans argent, il n'y a pas de terrorisme. L'image la plus souvent utilisée est celle de l'oxygène du terrorisme. Donc le gouvernement américain, à chaque fois qu'il prend une mesure sur le plan financier, il rappelle qu'il n'y a pas de terrorisme sans argent et que l'argent est l'oxygène du terrorisme.
Ça semble logique. On se dit derrière ça, pour qu'ils arrivent à faire ça, et le ça en question, évidemment, c'est l'attentat du 11 septembre, on se dit, il y a des sous pour arriver à ça.
C'est-à-dire que ça aurait été mieux si c'était le cas. C'est-à-dire que ça aurait été plus facile d'arrêter le terrorisme si effectivement l'argent était essentiel. Malheureusement, l'argent joue un rôle d'appoint, mais c'est pas le rôle essentiel. Là, si on compare la réalité du financement des attentats à ce que on a tendance à croire, on réalise que ça ne coûte pas très cher, le terrorisme. Dans le cas des attentats du 11 septembre, le coût total des attentats était de l'ordre de 300 000 dollars.
Attendez, là, je vous arrête. 300 000 dollars pour faire tout ça. Comment on a calculé ça?
Alors, il y a la commission du 11 septembre, donc qui consistait en plusieurs centaines de chercheurs qui ont travaillé avec le FBI, avec d'autres agences gouvernementales, où il y avait littéralement des centaines, peut-être même des milliers de comptables qui sont allés revoir toute la question du financement, c'est-à-dire que les retraits de distributeurs de billets, le paiement de loyers, l'achat de billets d'avion, donc toutes les dépenses des 19 terroristes du 11 septembre ont été retracées, et puis on en est arrivé au grand total de 300 000 dollars.
Quand est-ce qu'on a connu ces chiffres?
On a commencé à travailler là-dessus donc juste après le 11 septembre, et 2 ans plus tard, ces chiffres ont été confirmés. Bon,
alors, je suppose qu'on a travaillé également sur ceux qui financent ou ceux qui financent les attentats.
Oui,
mais... À part ça, il y a 300 000 dollars, voilà ce que ça a coûté.
Oui.
Mais derrière ça, il y a un monstre financier, prétendait-on.
C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'il devait y avoir des sommes considérables derrière ces attentats. Et on a été déçus de voir qu'en fin de compte, donc il n'y avait que ces 300 000 dollars. On a pu repérer la trace de 5 ou 6 individus qui ont effectivement envoyé de l'argent aux États-Unis. Donc ça partait surtout des Émirats Arabes Unis, donc de Dubaï en particulier. Un certain nombre de membres d'Al-Qaïda ont transféré des fonds aux États-Unis. Et ils ont transféré ces fonds de manière tout à fait légale en utilisant les circuits bancaires classiques. Et dans la mesure où les 19 terroristes en question avaient un statut d'étudiant aux États-Unis, donc il y a eu des sommes qui ont été transférées à titre de financement des études de ces individus. Donc au départ, ça n'a pas attiré l'attention de grand monde. Mais je crois qu'il y avait au départ le préjugé qui remonte en fait à la période soviétique et à la période qui a immédiatement suivi la fin de l'Union soviétique, qui consistait à dire que l'Union soviétique finance le terrorisme et que ce financement sur le plan logistique, sur le plan politique, coûte extrêmement cher. Après ça, il y a eu l'exemple de la Libye qui effectivement avait des camps d'entraînement et qui déployait des sommes considérables pour financer le terrorisme. Le terrorisme version Al-Qaïda, le terrorisme qu'on connaît aujourd'hui est un terrorisme différent dans la mesure où il n'y a pas de support des États. Donc là, forcément, l'apport des gouvernements, des grandes puissances n'existe plus. Il y a l'usage de l'Internet qui aussi réduit considérablement les coûts. Et puis, il y a surtout un système de support qui est très vaste, mais qui est très décentralisé. Donc, il y a forcément de l'argent qui circule, mais ce n'est pas du tout le modèle de la guerre froide ou de la période qui a immédiatement suivi la guerre froide.
Mais pourtant, on a parlé de la fortune de Ben Laden. La fortune de Ben Laden à 300 millions. Et dans le bouquin, vous expliquez comment on est arrivé à ce chiffre. Parce que ce que vous démontrez tout au cours de ce bouquin, et c'est souvent hilarant, enfin c'est à la fois hilarant et consternant, c'est comment sont produits ces chiffres, comment ces experts arrivent avec toute l'autorité et le ton péremptoire qui est le leur, pour affirmer des choses que personne ne peut vérifier ou que personne n'a voulu vérifier. Et par exemple, cette histoire des 300 millions de dollars qui serait la fortune de Ben Laden.
Alors, il faut peut-être commencer par expliquer que Ben Laden est donc le fils d'un milliardaire saoudien qui est devenu immensément riche en construisant des mosquées et des palais et des routes, des autoroutes en Arabie Saoudite. Donc le groupe Ben Laden, qui est donc une très grosse entreprise d'Arabie Saoudite, qui a des intérêts partout dans le monde. Et donc Ben Laden est l'un des fils de ce Mohammed Ben Laden, qui a fondé l'empire Ben Laden. Donc Ben Laden a commencé par se faire connaître en tant que financier et responsable logistique du djihad afghan. Donc dans les années 80, il allait entre l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan. Il avait des liens étroits avec les services de renseignement saoudiens. Son rôle consistait aussi à convaincre certains autres milliardaires saoudiens d'envoyer de l'argent au djihad afghan contre les soviétiques. Donc, c'est comme ça que le monde a appris l'existence de ce Oussama Ben Laden. Donc, il avait le label milliardaire saoudien. Et puis, au début des années 90, il est passé de simple facilitateur financier à celui de terroriste. Donc, en 1996, le département d'État a essayé de mieux comprendre la question financière et le rôle financier de Ben Laden. Donc, il y a un chercheur du département d'État à qui on a demandé d'enquêter sur la question, de déterminer la valeur de la fortune de Oussama Ben Laden. Alors, ce qu'il a fait, c'est un petit calcul grossier, enfin, qui est même ridicule à force de sursimplification. Il est parti du principe que Ben Laden était l'un des 20 fils du groupe Ben Laden, donc un des héritiers du groupe Ben Laden. Le premier chiffre, qui était lui-même plus ou moins fictif, était le chiffre des 5 milliards de dollars que valait le poids du groupe Ben Laden d'Arabie Saoudite. Donc il a divisé 5 milliards de dollars par 20. Et puis il est arrivé à 250 millions de dollars. Et puis il a arrondi au chiffre supérieur de 300 millions. Et puis, il a dit, donc, voilà la fortune de Ben Laden. Alors, depuis, ce chiffre a été répété un peu partout. Le problème de ce chiffre, c'est qu'il est fictif dans la mesure où le groupe Ben Laden est plus compliqué que ça. D'autre part, il n'y avait pas que 20 fils. Et puis, en droit musulman, les filles ont le droit d'hériter. Enfin, c'est la moitié de ce que les mâles héritent, mais elles héritent quand même. Donc, le calcul initial qui voulait que seuls 20 des fils de Ben Laden, et puis il y avait apparemment plus de 20 fils. Donc tous les chiffres étaient fictifs. Mais le chiffre en est resté là. Donc quand j'ai terminé mon livre, j'ai fait une recherche Google sur la combinaison de deux chiffres, 300 millions de dollars et Ben Laden. Et j'ai eu quelque chose comme 160 000 résultats ou hits. Donc
ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ce mythe-là fonctionne toujours. Ben Laden égale 300 millions de dollars et c'est répété à l'envi dans tous les médias, etc. On répète ça indéfiniment.
Ouais, alors que le chiffre est faux parce que en 1999, une délégation américaine s'était rendue en Arabie Saoudite pour effectivement demander aux banques d'ouvrir leurs comptes et de leur expliquer exactement en quoi consistait la fortune Ben Laden. Et ce qu'on a appris à ce moment-là, donc en 1999, c'était que Ben Laden avait hérité 20 millions de dollars de son père et que au début des années 90, quand ses frères ont commencé à être embarrassés par les histoires de terrorisme de leurs frères, lui ont demandé de leur vendre ses parts. Donc il a vendu ses parts à ses frères et le gouvernement saoudien a immédiatement gelé ses fonds. Enfin, il les a en fait confisqués. Donc, en 1994, Ben Laden n'avait plus rien de sa fortune initiale. Ben Laden était devenu, en fait, à ce moment-là, plus un récipiendaire de l'argent du terrorisme qu'un financier du terrorisme. Mais cela dit, le mythe est resté là. Et dans mon livre, j'explique que une des raisons pour lesquelles le mythe persiste, c'est qu'en fait, le mythe est tout à fait conforme aux stéréotypes qu'on a des Arabes en général, de la question des milliardaires arabes, et aussi le mythe véhiculé par les médias, par les films, en particulier les films de James Bond. Alors là, il faut peut-être aussi mentionner que pour ceux de vos auditeurs qui ont vu le film Casino Royale, le dernier James Bond, la trame de l'histoire, c'est en fait une question de financement du terrorisme. Donc c'est tout à fait plausible aux yeux du grand public qu'il y a des milliardaires qui financent le terrorisme et que à partir du moment où on saisit l'argent de ces milliardaires, le terrorisme sera éliminé.
J'ai entendu dire que les 00 ont une espérance de vie des plus limitées.
Sur votre compte au Monténégro, avec une provision pour 5 de plus si j'estime l'investissement prudent. Je suppose que vous avez réfléchi au fait que si vous perdez, votre gouvernement sera amené à financer le terrorisme.
Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme, c'est le titre du livre d'Ibrahim Ward. On continue. La guerre financière, comment ça marche? Vous dites, on va geler des avoirs de telle ou telle supposée aide au terrorisme. Mais qui décide et comment ça fonctionne?
Le département du Trésor américain joue un rôle important parce que c'est le département du Trésor qui officiellement ouvre des enquêtes pour déterminer qui sont les financiers du terrorisme. Le département du Trésor a le pouvoir de geler les comptes. Et donc ça, c'est au niveau américain. Au niveau international.
Les comptes partout dans le monde.
Voilà. En fait, donc aux États-Unis, ils peuvent le faire instantanément. Dans le reste du monde, il faut passer par l'ONU.
Ça veut donc dire que le Trésor américain contrôle tous les comptes bancaires du monde?
C'est un peu compliqué.
Si vous dites le Trésor américain peut bloquer n'importe quel compte, ça veut dire qu'il les contrôle tous.
C'est-à-dire potentiellement, oui, grâce au réseau SWIFT qui existe en Belgique. Et il y a eu des révélations en 2006. Le New York Times a révélé que depuis fin 2001, les États-Unis ont un accord avec ce réseau SWIFT qui donc centralise tous les transferts monétaires internationaux. Donc à chaque fois que quelqu'un transfère une somme d'un pays à l'autre, le réseau SWIFT joue un rôle de...
Ah, c'est pour les transferts internationaux.
Voilà.
Mais donc, est-ce que le réseau SWIFT sait combien j'ai sur mon compte, moi, par exemple?
Non, mais à ce moment-là, ce sont les autorités financières françaises qui coopèrent avec...
Ah, qui coopèrent?
Voilà,
il n'y a
ouais.
pas de restrictions
Depuis les années 90, il y a le groupe d'action financière, qui est connu aussi sous le nom de GAFI, dont le rôle consistait, et qui est d'ailleurs basé à Paris, dont le rôle consistait à internationaliser les lois sur le blanchiment d'argent. Donc il y a tout un réseau qui est très complexe et très dense, d'accords financiers entre les différents pays, et ça a pris une ampleur plus importante encore après le 11 septembre. Mais ça existe depuis 1990.
Donc après le 11 septembre, dans les semaines qui ont suivi, cette guerre financière s'est déchaînée, et on a bloqué, donc le Trésor américain, a bloqué nombre de comptes.
Il y a eu aussi une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'engageait en fait à mener aussi une guerre financière. Donc au niveau de l'ONU, il y a un système de contrôle, un système de sanctions qui est comparable au système américain, mais qui est beaucoup plus limité dans la mesure où les sanctions financières de l'ONU s'appliquent essentiellement à Al-Qaïda et à certains groupes jugés terroristes. Mais c'est beaucoup plus limité que ce que font les États-Unis, parce que les États-Unis ont tendance à élargir cette liste des groupes terroristes.
C'est là ce que j'allais vous demander. Qui a été visé alors par cette guerre financière, par ces attaques?
Donc, au départ, c'était les groupes de portée mondiale, les groupes terroristes de portée mondiale. Donc, l'expression américaine, c'était « groups with a global reach ». Et puis, cette définition américaine n'a cessé de s'élargir dans la mesure où, quelques semaines plus tard, il y a des groupes comme Hamas et Hezbollah qui ont été inclus dans la liste américaine. Alors, ces groupes ne sont pas inclus dans la liste de l'ONU. Et de nombreux pays refusent de coopérer avec les États-Unis quand il s'agit de groupes comme Hezbollah et Hamas. Mais pour ce qui est d'Al-Qaïda, le monde entier est plus ou moins d'accord qu'il faut geler les comptes. Mais le problème, c'est que très très peu d'argent a été trouvé dans les comptes d'Al-Qaïda.
Alors, quels sont les résultats aujourd'hui de cette guerre financière?
Pour résumer, je crois qu'il y a énormément de gesticulations. Donc en permanence, il y a des actions qui sont prises, des gels d'avoir, des sanctions financières, etc. Mais du côté de ceux qui sont visés, il faut noter que ces gesticulations prêtent à conséquence dans la mesure où les pays visés, et dans certains cas, il y a des pays entiers qui ont été affectés par cette guerre financière. Dans mon livre, je parle de ce qui s'est passé en Somalie. Mmh. Alors en Somalie, c'était au départ une société financière qui s'appelait Al Barakat, qui a été désignée en décembre 2001 comme financier du terrorisme. Et des enquêtes ont été ouvertes partout dans le monde. Et il s'est avéré que ce groupe Al Barakat n'avait en fait aucun lien avec le terrorisme. Donc l'accusation a été fausse. Entre-temps, cependant, il y a eu la fermeture du groupe Al Barakat, qui s'occupait surtout de virements financiers à destination de la Somalie. Donc, qui est un pays qui n'a pas de banque et dont les résidents dépendent dans une large mesure des virements que leur font essentiellement leurs familles qui habitent l'étranger. Donc, suite à ces sanctions contre le groupe Al Barakat, il y a eu un véritable désastre financier en Somalie, qui déjà était un pays extrêmement pauvre et qui avait toutes sortes de problèmes. Et alors qu'en fait la désignation d'Al Barakat était en fait une erreur bureaucratique, une erreur qui n'a jamais été reconnue par les bureaucrates américains, mais qui a néanmoins eu des conséquences importantes en ce qui concerne l'économie somalienne. Donc ça, c'est l'un des exemples, la légèreté avec laquelle certains comptes sont gelés et certaines décisions sont prises, en partant du principe que par définition, les bureaucrates qui prennent ces décisions savent ce qu'ils font.
Ces décisions sont prises hors de tout contrôle démocratique.
Voilà, c'est-à-dire que le public... D'abord, c'est très compliqué, les affaires financières. Donc, le grand public ne s'y intéresse pas vraiment.
Oui, mais...
Et les journalistes, en général, sont assez paresseux quand il s'agit de ces questions-là, parce que c'est un énorme effort de recherche et d'investigation qui est nécessaire pour savoir si ce que fait l'administration est justifié ou pas.
Par contre, ça permet de fantasmer, de raconter toutes les histoires qu'on veut. Vous citez un journaliste de USA Today qui s'appelle Jack Kelly, et vous dites que ce type a fabriqué des quantités de fausses coupes et de bobards, mais vraiment à plein tube.
Absolument. Donc, il raconte ce genre de bobards. Enfin, il a raconté ce genre de bobard depuis 1999 à peu près. Et c'était la superstar du journal USA Today, qui est le journal américain le plus lu. Mmh. Et en 2004, le journal s'est rendu compte qu'il inventait tout ce qu'il écrivait. Que donc, quand il prétendait que...
Mais les journalistes sont des poètes, hein.
Ah ouais. Et à deux reprises, il a failli obtenir le prix Pulitzer.
Quand même.
Et puis, donc, on s'est rendu compte en 2004... Et évidemment, le journal l'a viré, mais entre-temps, beaucoup des bobards qu'il avait racontés sont...
Lesquels, par exemple ?
Donc, par exemple, une histoire qui consistait à dire que des familles saoudiennes très proches de la famille royale sont en train de verser des sommes considérables à Al-Qaïda, et c'est un genre de chantage implicite dans la mesure où, en versant ces sommes-là à Al-Qaïda, Al-Qaïda s'engage à ne pas attaquer leurs intérêts en Arabie saoudite. Donc, il a écrit un article en 1999 qui racontait cette histoire-là. Donc, des milliardaires saoudiens qui envoient des sommes énormes à Al-Qaïda pour ne pas se faire attaquer en Arabie saoudite. Quiconque connaît un petit peu l'Arabie saoudite sait que ce n'est pas du tout plausible comme histoire, dans la mesure où les groupes financiers proches de la famille royale ne peuvent pas se permettre d'envoyer des subventions à un groupe dont l'objectif déclaré est de détruire l'Arabie saoudite et le régime saoudien. De l'autre côté, l'Arabie saoudite est un régime autoritaire, sinon totalitaire, où on ne bombarde pas les intérêts économiques et financiers des grandes entreprises. Donc c'était forcément un fantasme de quelqu'un qui connaît pas bien le monde musulman et qui connaît pas bien l'Arabie saoudite. Mais une fois qu'il a raconté cette histoire, l'histoire a été reprise par tous les autres journalistes américains, disant que les grands groupes financiers d'Arabie saoudite financent Al-Qaïda et sont victimes de ce chantage d'Al-Qaïda.
Thank you. trois mois, la présidence de George Bush a pris un tour radicalement nouveau. Il prône désormais la lutte systématique contre le terrorisme, quels que soient les pays où il faudra intervenir.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
On continue avec Ibrahim Ward autour de son livre Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme qui vient de sortir chez Agon avec Le Monde diplomatique. Alors, cette guerre financière contre le terrorisme, contre l'argent du terrorisme, a été critiquée. Rumsfeld s'aperçoit, et il fait une déclaration en 2003, vous le citez dans votre bouquin, il dit « on est en train de dépenser des milliards contre les terroristes qui, eux, ne dépensent que des millions ». Donc, il avait déjà compris, là, que c'était pas forcément des milliardaires qui voulaient ruiner l'Occident. Des milliardaires arabes qui voulaient ruiner l'Occident.
Oui, en fait, ce texte que je cite de Rumsfeld est un document en fait assez rare. C'était un mémo plus ou moins secret qui était à l'intention de certains de ses proches collaborateurs que Rumsfeld avait écrit, où il s'était montré pour une fois plus ou moins honnête et candide dans la mesure où il était en train de dire qu'en gros cette guerre contre le terrorisme ne marche pas très bien, ne marche pas très fort, parce que un autre commentaire qu'il avait fait dans le même texte, c'était est-ce qu'on n'est pas en train de créer plus de terroristes que l'on en arrête. Et donc c'était un commentaire tout à fait lucide dans la mesure où certaines politiques en fait créent de nouveaux terroristes. Et donc ça ne correspond pas vraiment à ce que Rumsfeld a dit en public.
Globalement, Ibrahim Ward, aujourd'hui, 2001-2007, 6 ans, la lutte, la guerre contre le terrorisme, c'était ça la déclaration fondatrice de George W. Bush. On en est où avec le terrorisme? On en est où avec les attentats?
Il y a eu une augmentation très forte des attentats terroristes tels que mesurés par le département d'État américain. Il y a certains calculs qui montrent que le nombre d'attentats terroristes entre 2001 et 2007 a été multiplié par 7. Donc là aussi, ça affaiblit la thèse de ceux qui disent que la guerre financière contre le terrorisme est un succès et que l'argent est le nerf de la guerre, ou que l'argent est l'oxygène du terrorisme, dans la mesure où, si c'est vraiment le cas, donc si d'une part la guerre financière est un succès et d'autre part l'argent est l'oxygène du terrorisme, comment expliquer que le nombre d'attentats terroristes au niveau international a été multiplié par 7. Et évidemment, le facteur irakien est un facteur important dans la mesure où de nombreux attentats terroristes ont lieu en Irak. Mais globalement, en Afghanistan et ailleurs, il y a eu une augmentation très forte du terrorisme depuis 2001.
Ce que vous dites aussi, c'est que sous couvert de lutte, si cette guerre financière continue, c'est que sous couvert de lutte contre le terrorisme, la guerre financière est devenue tout simplement l'arme ou l'une des armes, mais une arme importante de la politique étrangère des États-Unis. C'est-à-dire que ça déborde, vous citez l'exemple de la Somalie, avec tous les désastres. Là, il s'agit peut-être d'un dommage collatéral, mais en tout cas, ça devient peu à peu la façon, et ça, on revient au titre de votre bouquin, sur la notion d'impérialisme, tout simplement. C'est-à-dire que ça permet au gouvernement américain de prendre le contrôle de la finance internationale et de diriger sa politique étrangère comme il l'entend.
Tout à fait, parce que ces sanctions financières sont imposées un peu partout dans le monde. On a vu ça dans les territoires occupés en Israël, donc les Palestiniens qui sont, surtout depuis l'élection de Hamas en janvier 2006, qui est en permanence des sanctions financières imposées donc à la fois par les États-Unis, par l'Union européenne et d'autres pays, mais c'est surtout les États-Unis qui sont le moteur de ces sanctions. Et les États-Unis conçoivent ça comme un outil de politique étrangère. Donc c'est l'outil le plus commode, mais c'est aussi l'outil potentiellement le plus dangereux dans la mesure où là encore, on ne s'attaque pas au problème véritable qui est d'expliquer pourquoi le Hamas bénéficie d'un tel soutien au niveau de l'opinion publique palestinienne. Donc là, on voit la contradiction entre cette politique-là de sanctions financières Et le but proclamé des Américains et de leurs alliés dans cette histoire, qui est de dire qu'il faut améliorer la condition de vie des Palestiniens. Par exemple, on a vu que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair est en ce moment envoyé spécial de ce qu'on appelle le quartet. Donc les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, la Russie. Et son rôle consiste à améliorer les conditions économiques des territoires occupés. Or, ces conditions économiques sont en permanence affaiblies par ces sanctions financières. Donc là encore, c'est un des exemples de ces contradictions, de cette guerre financière.
C'est-à-dire que tout est fait pour ne pas s'interroger sur les causes du terrorisme. Hein. Vous indiquez bien que au lendemain des attentats du 11 septembre, immédiatement, c'est la notion de mal, de bien et de mal qui interviennent. C'est-à-dire que c'est des notions théologiques. Hein. On sait à quel point, vous le rappelez, George W. Bush est complètement imprégné d'une philosophie religieuse, en tous les cas de religion. Et tout est fait pour ne pas s'interroger. C'est-à-dire qu'on lutte contre le mal. On lutte pas contre un adversaire en s'interrogeant sur les causes de son agressivité. On lutte contre le mal.
Absolument.
C'est ça qui s'est imposé, qui est toujours là, qui est toujours présent.
Oui. C'est-à-dire que il y a eu une période de plusieurs mois, en tout cas, où il ne fallait surtout pas dire aux États-Unis que les attentats du 11 septembre étaient liés d'une manière ou d'une autre à la politique étrangère américaine. Donc c'était inacceptable dans le discours politique. Et donc on parlait du mal. Et là, l'argent était un argument important parce que c'était le complément nécessaire à la notion de mal. Parce que la question de mal fournissait la cause de ces attentats. Et puis l'argent fournissait les moyens. Donc j'explique dans mon livre comment, en combinant ces deux éléments, on avait une explication qui pouvait convaincre tout le monde.
Vous parlez à l'imparfait, mais est-ce que ça a changé aujourd'hui?
Ça a changé un petit peu dans la mesure où, au sein même des États-Unis, presque tout le monde reconnaît que la politique étrangère américaine a été un facteur dans la montée d'Al-Qaïda, etc. Donc il y a certaines choses que la presse de référence, comme le New York Times ou le Washington Post, reconnaissent, alors qu'ils ne le reconnaissaient pas il y a 5 ou 6 ans. Donc c'est accepté, en tout cas, dans le discours politique. Il y a des gens qui critiquent la guerre contre le terrorisme, la politique étrangère américaine, tout ça est reconnu. Mais alors il y a encore l'exception financière dont je parle, dans la mesure où il y a de nombreux sondages, y compris au sein des élites, qui montrent que quand on demande aux Américains s'il n'y a pas eu certains succès quand même dans la guerre contre le terrorisme, tout le monde cite l'exception financière. Donc on dit que oui, sur le plan financier, on a fait de bonnes choses. Donc ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que c'est pas du tout le cas.
Ce qui est fort aussi dans ce bouquin, c'est que pour nous, pour beaucoup d'observateurs, la mondialisation, c'est la libéralisation tout azimut, à commencer par la finance qui se déplace au gré des marchés, ce qui exige moins de contrôle et donc moins d'État. Et ce que vous dites, c'est que à travers cette guerre financière contre le terrorisme, ça a permis aux États-Unis de prendre ce que vous appelez le contrôle financier tentaculaire de la planète.
Oui, mais ce que j'explique aussi, c'est que, et ça, certains de ces, ils aiment bien s'appeler les guerriers financiers, donc ceux qui appartiennent à cette bureaucratie qui mène la guerre financière, parlent tout le temps de leur succès et aiment bien se présenter comme des guerriers de la finance. Ces guerriers de la finance ne réalisent pas qu'à long terme, je ne suis pas sûr qu'ils font soit nécessairement dans l'intérêt des États-Unis. Parce que d'une part, en imposant des sanctions à droite, à gauche, il y a des pertes de marché pour les grandes entreprises américaines. Donc, quand il y a des sanctions contre l'Iran, il y a automatiquement les Russes et les Chinois qui saisissent ces marchés-là, dans la mesure où les Européens, en tout cas sur la question iranienne, ont tendance à suivre la position américaine. L'autre problème dont je parle dans mon livre, c'est que sur le plan de l'idéologie économique affichée par les États-Unis, on parle tout le temps de l'intégration internationale, de la globalisation, du fait que le meilleur moyen pour les pays pauvres de sortir de leur pauvreté, c'est en fait de tisser des liens supplémentaires avec le reste du monde. Donc cette guerre financière, en fait, a l'effet inverse, dans la mesure où il y a des pans entiers de l'économie mondiale qui sont exclus du système et qui le sont de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui, avant le 11 septembre 2001, commençaient à s'intégrer un peu dans le système international et de plus en plus, à cause de ces contrôles financiers, il y a des systèmes informels et souterrains de la finance qui sont en train de prendre le dessus par rapport à l'économie officielle de ces pays-là, donc qui s'intègrent de moins en moins dans l'économie mondiale. Donc là, il y a une contradiction entre le fait que le gouvernement américain contrôle de plus en plus la finance mondiale, mais d'un autre côté, ça va à l'encontre de certains des objectifs affichés des États-Unis.
On a des élections aux États-Unis dans un an, en novembre 2008. Les hypothèses sont que les démocrates ont pas mal de chance. Est-ce qu'ils ont des perspectives, des projets politiques différents en cette matière?
En tout cas, dans le domaine du financement du terrorisme, non. Il y a un consensus.
Ça continue.
Ça va continuer. Cela dit, les démocrates sont très prudents parce qu'ils ont peur d'être accusés d'être trop mous dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Donc, Madame Clinton, qui semble être la mieux placée pour avoir la nomination démocrate, est très prudente dans ce domaine. Donc elle veut maintenir le discours musclé en matière de lutte contre le terrorisme, mais tout en promettant de faire les choses différemment. Mais pour ce qui est de l'aspect financier des choses, on en parle très peu dans le discours politique américain.
Voilà, merci à Ibrahim Ward. Je rappelle le titre de son bouquin, Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme, aux éditions Agone et Le Monde Diplomatique. C'est une coédition. Et puis, d'autre part, nous signalons le festival Proche-Orient que peut le cinéma, qui se tiendra jusqu'au 27 novembre au cinéma 3 Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris. De nombreux films, notamment sur le conflit israélo-palestinien et sur la situation en Irak. Ces films sont présentés donc dans le cadre de ce festival jusqu'au 27 novembre, 3 Luxembourg. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de Là-bas, si j'y suis, où vous pourrez réécouter cette émission, ainsi que de nombreux numéros de Là-bas, si j'y suis. Je rappelle, Colombie, on décolle le 3 décembre, le lundi 3 décembre pour la Colombie. À la technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassus, et Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Beaucoup de messages ces temps-ci sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis. Pardon de ne pas pouvoir passer tous ces messages. Bien évidemment, vous nous comprenez. Puis je rappelle aussi le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.